Le texte que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Une bonne longueur en bouche ». Il a été publié aux éditions Humus à Lausanne. Les éditions Humus sont dirigées par Michel Froidevaux. Il dirige également une galerie qui s'appelle la Galerie Humus. Il traite principalement d'érotisme et d'humour. La collection L'Indiscrète, le principe de la collection était de réunir des auteurs et des artistes autour d'un conte, d'un texte, d'une nouvelle. La collection compte environ une vingtaine de titres. On y retrouve des auteurs comme Pierre-Yves Ladore, Denis Guelpa, Eugène et Willem. Voilà, donc je vais vous lire « Une bonne longueur en bouche ». Elle était étendue sur la table basse, les bras maintenus le long du corps et les jambes croisées. Les yeux luisaient, mais le visage qui formait un ovale parfait ne trahissait aucune émotion particulière. Les cheveux, d'un noir intense, se répandaient en éventail autour de la tête. Les lèvres s'épanouissaient comme un bouton de rose écarlate prêt à éclore. La peau était blanche comme la neige. Elle restait immobile, entièrement nue, recouverte de sushis. Les quatre vignerons de Genève venaient de prendre place autour de la table. Jacques-Auguste Gros, Horace Courvoisier, Bastien Achard et Armand Voignat tâchaient de garder contenance. Ils ne s'attendaient pas à cela en acceptant l'invitation de Tanaka Kanta, un riche industriel qui habitait le dernier étage d'une tour au centre de Tokyo. Tanaka Kanta hurlait plus qu'il ne parlait. Il terminait toutes ses phrases avec un rire gras et une légère révérence. Le traducteur traduisait et les hôtes rendaient rire et révérence. On buvait du saké froid, mais aussi du pinot gris de Jacques-Auguste Gros, du sauvignon d'Horace Courvoisier, un assemblage de Bastien Achard et du mar d'Armand Voignat. Tanaka Kanta avait acheté plusieurs centaines de bouteilles de leur production. Les quatre Genevois étaient les vignerons parmi les mieux cotés du canton. Ils réalisaient avec ce voyage au Japon une belle percée sur le marché asiatique. Tanaka Kanta invita ses hôtes à manger avec les doigts. Les vignerons genevois furent d'avis que ces sushis étaient les plus succulents du monde. Ils se pâmèrent longtemps, notamment sur la chair translucide et si subtile du fugu, présentée en sashimi sur le pubis ébène de la jeune femme. Quand il ne resta sur celle-ci, plus que la fleur de coquelicot qui masquait son nombril, Tanaka Kanta frappa des mains. Deux geishas vinrent recouvrir le corps immobile de nouveaux délices. La soirée avançait, et avec le vin, les phrases hurlées, les rires gras et les révérences de Tanaka Kanta devenaient incohérents. Le traducteur ne traduisait plus. Jacques-Auguste Gros se laissa aller discrètement. À chaque prise, il en profitait pour effleurer la peau de la jeune femme, d'abord de manière imperceptible, puis de façon de plus en plus appuyée. Il se persuada que la jeune femme ne regardait que lui et qu'il faisait naître en elle un désir ardent. De toute façon, pensait-il, avec un homme comme Tanaka Kanta, la soirée ne pouvait se terminer qu'en orgie. Bientôt, d'autres geishas viendraient se joindre à la cérémonie. Horace Courvoisier, grand amateur de pieds féminins, n'eut ici très vite qu'une seule tentation, celle de soulever la fleur de coquelicot afin de dévoiler le nombril. Bastien Achard, qui était fort timide et qui n'avait encore jamais connu de femme d'aussi près, jouissait pour la troisième fois dans son pantalon. Quant à Armand Voignat, il tombait irrémédiablement amoureux. Tanaka Kanta, ivre mort, finit par s'effondrer sur le ventre de la jeune femme. Celle-ci resta impassible. On hésita une seconde, puis le traducteur invita les hôtes à prendre congé. Les quatre vignerons saluèrent la jeune femme, mais ce n'était qu'une table humaine et elle ne répondit pas. Quand Jacques-Auguste Gros retrouva sa femme à l'aéroport de Genève, il eut d'abord une irrésistible envie de choucroute. Il emmena Jeannine dans une brasserie pour s'empiffrer. Il lui raconta en détail son périple au Japon, sans oublier l'épisode du repas chez Tanaka Kanta, mais il tut la pulsion qu'il éprouva alors et qui l'obsédait toujours. Au dessert, il tenta cependant quelque chose. « Imagine que cette mousse au chocolat me soit servie sur ton ventre. Jeannine, qui connaissait son mari par cœur et qui avait trouvé l'anecdote de la table humaine fort piquante, éclata de rire. Peu après, à la maison, pour le gâter avec le même plaisir qu'elle aurait eu à gâter un enfant avec des friandises, elle se nappa le corps de miel. Jacques-Auguste Gros, excité comme une entière meute de loups, lui dévora le ventre dans son entier, et ceci jusqu'au dernier spasme de plaisir. Si Jeannine savait deviner les tourments de son mari et soulageait ses fardeaux lorsqu'ils devenaient trop lourds, elle brillait surtout pour son esprit d'initiative. Et, lorsque 3 jours plus tard, il revint à la charge, armé de glace au chocolat et de crème chantilly, elle déclara avec autorité « Non, ce soir c'est moi qui cuisine ». Elle banda les yeux de Jacques-Auguste Gros à l'aide d'un foulard noir, le dénuda entièrement et le coucha sur la grande table du salon. Elle prit encore soin de lui lier les membres au pied de la table. Il se laissa faire, certes émoustillé, mais aussi un peu anxieux. Les bruits et les odeurs qui lui parvenaient de la cuisine auraient paru en temps normal tout à fait réconfortants. Jeannine était une excellente cuisinière. Mais le son du hachoir, le crépitement d'une casserole et le parfum de l'échalote qui se liait à celui du beurre chaud en devenaient à cette heure presque inquiétants. Enfin gourmet, il essaya de deviner la recette. Sans y parvenir, les fantasmes les plus périlleux encombraient son esprit. « Qu'est-ce que tu prépares ?» osa-t-il demander au bout d'une heure. Une voix qu'il reconnut à peine lui répondit « Un gros cochon ». En effet, quand tout fut prêt, jusqu'au dernier détail, une pomme caramélisée glissée dans sa gueule, Jacques-Auguste Gros eut le sentiment de ressembler à l'un de ces énormes sangliers rôtis que l'on servait à l'occasion de banquets mémorables. Jeannine s'attabla. Horace Courvoisier exigeait de ses partenaires un rituel bien précis. Il fallait que la dame arrive au rendez-vous en cuissette, barésie, talons aiguilles et ongles vernis. Horace Courvoisier lui offrait à boire dans la bibliothèque. Il aimait s'entretenir de littérature et si la dame ne s'y entendait pas, il monologuait. Une fois dans la chambre, la dame prenait place sur le lit et Horace Courvoisier s'asseyait en face sur une chaise. La dame devait commencer par se caresser les jambes. Ensuite, elle se déchaussait, lançait les chaussures à Horace Courvoisier, les attrapait au vol, les humait et suçait les talons. Avec une extrême lenteur, la dame découpait à l'aide de petits ciseaux les bas hauteur de la cheville et dégageait les pieds. Pendant cette opération, Horace Courvoisier appréciait beaucoup que la dame soupire, gémisse ou mieux encore pousse de petits cris. Hélas, ces derniers étaient pour le plus souvent mal exécutés et Horace Courvoisier préférait alors se montrer franc avec la dame, plutôt que de gâcher la séance. Mais il était une autre qualité que la dame se devait absolument de posséder si elle ne voulait pas se voir privée pour toujours des gloses littéraires d'Horace Courvoisier. La souplesse. Toutes n'étaient en effet pas à même de porter les pierres à la bouche. Horace Courvoisier ne se contentait pas d'un vulgaire sucettement du gros orteil. Il fallait que la dame soit capable de se lécher les 2 pieds dans leur entier, du bout de l'ongle du gros orteil à l'extrémité du talon, en s'attardant longuement sur la plante. Elle devait certes faire preuve d'agilité, mais aussi de sensualité, gare aux vilaines grimaces qui pouvaient naître de l'effort. Et cela d'autant plus que le final nécessitait de solides abdominaux. Horace Courvoisier ouvrait sa braguette, la dame tendait les jambes et le terminait avec ses pieds. Horace Courvoisier était radin, il ne faisait pas appel aux professionnels, il dénichait ses partenaires par petites annonces. L'intérêt soudain pour le nombril que son séjour au Japon avait provoqué lui fit rédiger la suivante. Jeune homme œnophile et lettré, cherche charmant nombril cave ou saillant, avec jolie dame autour, pour réinventer les plaisirs de l'amour. Bastien Achard avait 5 ans lorsqu'il commença sa collection secrète. La pièce fondatrice en était une photographie. Première primaire, classe de M. Albrecht, 1958. Le petit Bastien Achard se tenait debout à côté de Suzanne Schellert, la fille du douanier fribourgeois. Il en était follement amoureux depuis le premier jour. La collection, qui comptait plusieurs centaines de pièces, se poursuivait avec un petit caillou qui avait traîné dans une sandalette de Suzanne, un crayon qu'elle avait rongé, un morceau de pâte à modeler qu'elle tenta de manger, quatre cheveux blonds coincés dans une épingle à cheveux, un morceau de dent qu'elle avait perdu à la gym en se prenant un ballon en plein visage. La dernière pièce récoltée consistait en une vieille paire de bottes en plastique bleu que Suzanne avait déposée sur le seuil de sa porte pour le ramassage des objets encombrants. Mais Bastien Achard n'était pas le seul à entretenir cet amour secret. Suzanne avait constitué en parallèle une collection similaire, et si la dernière pièce qu'elle avait récoltée consistait en un vieux tire-bouchon en manche de cèpe que Bastien Achard avait déposé sur le seuil de sa porte pour le ramassage des objets encombrants, la pièce fondatrice était cette même photographie de classe de 1958. Le dimanche qui suivit son retour du Japon, à 16h sonnante, Bastien Achard prit son courage à deux mains et frappa chez Suzanne. Elle ouvrit la porte et lui tendit un bouquet de roses rouges. Ils burent leur thé en silence, tétanisés par la timidité. Et puis soudain, Suzanne murmura « Merci d'être venu, merci pour les roses ». « Merci pour le thé », répondit Bastien Achard. 10 minutes plus tard, Suzanne osa encore. « Tu te souviens de notre premier jour à l'école ?»« Oui, j'y pense tous les jours. J'ai conservé la photo de classe de M. Albrecht. Moi aussi, je la regarde souvent. » Et comme deux véritables amants qui se connaissaient depuis toujours, ils égrenèrent les souvenirs communs de ce temps passé ensemble sans être physiquement ensemble, illustrés par les pièces de leurs collections respectives. Peu à peu, ils déballèrent ce désir si longtemps réfréné au fond de leur cœur et qui parfois, lorsqu'il bouillonnait trop fort, ne trouvait qu'un assouvissement stérile en se répandant dans le vide. Mais à passer minuit, quand ils finirent par évoquer la vieille paire de bottes en plastique bleu et le vieux tire-bouchon en manche de cèpe, Bastien Achard et Suzanne décidèrent enfin que le futur devait être rempli. Ils se jetèrent nus l'un dans l'autre avec une passion telle que les voisins s'en souviennent encore. Armand Voigna était reparti à Tokyo avec la ferme intention de retrouver la jeune femme qui avait servi de table humaine chez Tanaka Kanta. Mais il devait d'abord prendre contact avec le traducteur. Ce dernier lui expliqua que la jeune femme n'était pas une geisha, mais bien plus probablement une prostituée. Par ailleurs, Tanaka Kanta était un personnage important et le fait de lui demander des renseignements sur ce genre de choses se trouvait être particulièrement déplacé. Le traducteur pouvait en revanche lui indiquer différents réseaux qui proposaient des tables humaines. La plupart disposaient de catalogues où il était facile de choisir. Armand Voigna insista. Le traducteur consentit alors à lui obtenir un rendez-vous, mais il ne l'accompagnerait pas. Armand Voigna devait se débrouiller seul et ses rares notions de Schweizerdeutsch ne lui seraient guère utiles. Tanaka Kanta reçut Armand Voigna dans son bureau en fin d'après-midi. Il ne se montra pas très enthousiaste de retrouver l'un de ses fournisseurs genevois. Armand Voigna s'était muni d'un bloc de papier sur lequel il avait dessiné une scène de leur fameuse soirée autour de la table humaine. Il avait cerclé le visage de la jeune femme et placé juste à côté un gros point d'interrogation. Tanaka Kanta examina le dessin avec perplexité. Il le tourna en tous sens pendant plus d'une minute. Il laissa alors retomber le bloc de papier sur le bureau et fixa Armand Voigna avec une expression glaciale qui le fit frémir. Tanaka Kanta finit par exploser d'un tonitruant fou rire. Il se leva et sans cesser de rire, il alla se munir au bar d'une bouteille de marc d'Armand Voigna et de deux verres. On trinqua. Puis Tanaka Kanta reprit soudain son expression la plus sévère pour hurler un ordre au téléphone. Le combiné aussitôt raccroché, il se mit à rire de plus belle et tandis qu'il frappait d'une main affectueuse Armand Voigna dans le dos, il remplissait les verres de l'autre. 4 heures plus tard, Tanaka Kanta conduisit Armand Voigna dans un faubourg de la ville. Il le guida dans un labyrinthe de ruelles interlopes, gorgé de passages secrets et le poussa dans une grande pièce à l'éclairage feutré. Armand Voigna distingua un amas de corps dénudés, moites et gémissants. Une forte houle agitait l'océan de chair. Armand Voigna était fasciné par le spectacle, mais il recula d'un pas. L'objet de ses rêves se trouvait-il quelque part dans les abysses de cette monstrueuse orgie? Il se tourna vers Tanaka Kanta. Celui-ci se noyait déjà et son rire tonitruant résonnait comme une agonie. Armand Voigna hésitait. Fallait-il plonger ou fallait-il fuir? L'océan de chair ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il fut happé par une vague déferlante qui l'entraîna au fond. Armand Voignat essaya en vain de résister à la force des courants. Épuisé, il finit par s'abandonner à la dérive. Son corps ne lui appartenait plus. Des dizaines de mains, de bouches et de sexes en étaient emparées. Et avant que sa raison ne finisse également par se dissoudre, dans un dernier réflexe de survie, il chercha sa sirène dans le visage déformé par la jouissance de la femme qui le chevauchait. Jacques-Auguste Gros, Horace Courvoisier et Bastien Achard se retrouvèrent à la fête des vendanges de Russin. Ils buvaient une bouteille de chardonnay au coin du bar de la Grange à Jacquot. Jacques-Auguste Gros parla du temps qui n'avait pas été très favorable cette année. Horace Courvoisier expliqua ses démêlés avec l'administration fiscale cantonale et Bastien Achard fit l'éloge de son vieunier. Ils se remémorèrent ensuite les grandes étapes de leur voyage au Japon. Ils plaisantèrent comme de vieux camarades de chambrée en évoquant le repas chez Tanaka Kanta. Ils digressèrent sur les sushis et sur le mont Fujiyama. C'est alors qu'Armand Voignat apparut dans l'entrebâillement de la porte de la grange. Il s'avançait vers le bar. Il n'était pas seul. Bien qu'elle ait changé de coiffure, les trois vignerons reconnurent immédiatement la jeune femme qui avait servi de table humaine chez Tanaka Kanta. Armand Voignat fit les présentations. Elle s'appelait Ai, ce qui en japonais signifie amour. Je vous remercie.
C'était Germano Zullo avec sa nouvelle Une bonne langueur en bouche, enregistrée à la Bibliothèque de la Cité à Genève le 23 septembre 2008.